Bonjour, Marco, compte à rebours. Compte à rebours, la célèbre émission d'histoires, de contes, de légendes, de toutes sortes. Et aujourd'hui, on va repartir loin, hein, sur le toit du monde, une fois de plus. Mais je voulais, en cette période un peu particulière, vous rappeler des souvenirs d'enfance. Vous rappeler dans les cours de récréation, quand on était là, jouait aux billes, les filles faisaient leurs marelles. Il y en avait certains qui je vais pas employer de grossièreté, mais venez, disons, déranger le jeu de billes ou la marelle des filles. Et puis après, ils allaient se plaindre à l'instituteur en disant, monsieur, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Bon, on peut résumer ça comme des gens qui mettaient le désordre, on va dire. Certains désordres, en tout cas. Et qui avaient du mal à exister en dehors de ça. C'est triste. Je me suis rendu compte que ces individus-là sont pas très nombreux et on les voit dans les cours de récréation. Eh bien, ce sont ceux qui deviennent plus tard des hommes politiques, oui. Ou en tout cas, peut-être pas simplement des hommes politiques, mais des dirigeants, oui, des dirigeants. Ce sont eux qui ont envie d'être chefs et qui le sont et qui jouent sur la planète à qui sait qui a la plus grosse, parce que c'est un peu leur mentalité de base, très enfantine finalement. Et voilà pourquoi nous avons tout un tas de tourments divers et variés. Donc, il faudrait faire une éducation dès la cour de récréation pour repérer ceux qui plus tard vont devenir ces grands timoniers qui vont, faire quelques milliers de morts parfois, hein. Et justement, aujourd'hui, on va partir, je disais, sur le toit du monde parce que j'ai pas fini d'épuiser mon livre reçu à Noël, Contes tibétains de Surya Das. Donc, j'ai encore puisé dans ces histoires. Ce sont des histoires qui viennent de la tradition orale bouddhiste du Tibet. C'est vrai que les bouddhistes ont certes des enseignements écrits, hein, et tout un tas d'ouvrages par milliers, mais il y a aussi une tradition de transmission orale et des lignées nombreuses qui peuvent être identifiées, un tel, son grand-père, ainsi de suite, et on remonte comme ça des personnages fondateurs tel Padmasambhava, le précieux maître, donc des personnages qui ont vécu dans des époques très lointaines, plus soit moyenâgeuses, soit carrément à l'époque de la naissance de Jésus-Christ, donc on va très loin. Alors, aujourd'hui, on va partir justement dans trois histoires de rencontres entre des Tibétains et des Chinois. Et elles se terminent toutes plutôt mal, hein, pour les Tibétains. Donc c'est des histoires un peu dures, un peu macabres, faut bien le reconnaître, hein. Donc je terminerai quand même par une histoire plus légère. Tibétaine aussi, hein, mais qui n'est pas sans rappeler un fabliau médiéval tel le prix de l'odeur de la soupe, peut-être certains connaissent, et donc bien sûr sans rappeler notre ami Nasreddin. D'ailleurs, si on a le temps, il fera son petit tour de piste en fin d'émission. Mais tout de suite, donc, trois histoires tibétaines, assez macabres finalement, mais la mort n'est-elle pas le dernier personnage de toutes les histoires, et avant tout la nôtre? Dola Jigme Kelsang était un grand maître dzogchen de la tradition Nyingtig, l'essence du cœur. Disciple du premier Dodrup Chen Rinpoche, il eut beaucoup de disciples et voyagea beaucoup enseignant Mahati, la grande perfection, dans le nord-est du Tibet et en Mongolie jusqu'à sa mort, que voici raconté. Dola et deux disciples traversaient une ville en Chine occidentale quand ils tombèrent sur un grand rassemblement de foule. Un voleur était sur le point d'être exécuté. Il était assis à califorchon sur une selle de métal d'une statue de cheval, dans le ventre de laquelle un feu allait être allumé. Le cheval était un poil conçu pour torturer une victime. Le criminel, terrifié, appelait à l'aide et demandait grâce. La foule se moquait de lui, lui rappelant ses crimes. Poussé par une compassion irrépressible, Dola s'avança et confessa à la foule que c'était lui, le voleur, et que le prisonnier devait être libéré. La foule, assoiffée de sang et d'émotion, coupa immédiatement les liens du voleur et on se saisit de Dola et on l'attacha sur le cheval. Puis, on alluma allègrement le feu. Le cheval de fonte devint incandescent. Le grand yogi se tint droit, le regard fixé à l'infini, quittant ce monde sans un murmure. Padampa Sangye était un siddha indien, un siddha c'est-à-dire un sage accompli, un yogi accompli, du 11e siècle, bon c'est vieux quand même, hein, qui vint au Tibet du Sud dans ses dernières années. Là, Padampa fit une amicale compétition yogique avec Jetsun Milarepa, le suprême ermite saint du Tibet dont je vous ai déjà parlé, dans laquelle tous deux manifestèrent leur pouvoir surnaturel. Le vainqueur, dit-on, ce fut la vérité. Padampa conduisit à la libération la yogini tibétaine du nom de Machig Labdrön, qui fut sa disciple la plus importante. Et après Yeshe Tsogyal, la première femme tibétaine détentrice de la lignée du Chöd. Et dans les merveilleux chants de louange de Machig Labdrön, elle décrit le Padampa sombre, le saint patriarche. Elle l'évoque avec sa peau brune, ses yeux d'épervier, son nez semblable au lotus, ses genoux comme des socs de charrue, ses jambes comme des bâtons de marche, ses longs ongles de doigts et d'orteils et son esprit éveillé et aigu. Vraiment un gourou illuminé, légendaire, semblable à un épervier. Padampa introduisit beaucoup de gens. Instruisit beaucoup de gens dans un village appelé Tingri, près du mont Everest, à la frontière népalaise. Et là, après son trépas, son corps fut enterré. Jusqu'à une date récente, des actions ont été continuellement accomplies sur cette tombe sacrée pour le corps béni du maître qui a été conservé grâce aux méthodes d'embaumement. Après l'invasion chinoise du Tibet en 59, les soldats des troupes d'occupation étaient sur le point de détruire le tombeau reliquaire de Padampa et d'éparpiller les reliques sacrées. Un vieux moine tibétain dévot prit un morceau du corps embaumé du saint avant que tout soit perdu. Mais le crime du moine vint à la connaissance des Chinois. Ils firent enchaîner le vieux moine pour le livrer à une sorte de question en public, une session de lutte, un tamzing, où il fut accusé. les chefs militaires de l'armée d'occupation voulaient savoir quelles étaient les intentions véritables du lama. Pourquoi le vieux moine superstitieux avait-il perpétré contre le peuple un tel crime anti-révolutionnaire ? Avait-il l'intention d'utiliser la relique momifiée pour accomplir des rites magiques illégaux ? Le vieux moine répondit simplement qu'il avait été amené depuis bien longtemps à vénérer les restes sacrés du plus grand saint de son village, Padampa Sangue, le Bouddha de Tingri. On croyait que ces reliques conféraient la libération simplement en les voyant ou en les touchant. Aussi voulait-il seulement préserver dans une petite mesure un précieux souvenir de cette vieille foi séculaire dans l'intérêt des générations futures. Toutes les choses de notre passé doivent-elles disparaître ? Demanda-t-il à ses implacables geôliers. Les tourmenteurs chinois dirent que si la chair d'un saint mort était si sacrée, le vieux moine devait alors la manger. À leur grande surprise, le vieux moine accepta. La relique de chair, vieille de 7 siècles, fut apportée parmi les murmures des Tibétains assemblés. Devant la foule et les officiers militaires, sans la plus légère hésitation, le vieux moine mangea les restes vénérables. Les gens furent remplis de joie par cette remarquable justification de leur foi. La relique avait été enchâssée de façon permanente à l'intérieur du vénérable moine. Les Chinois, perplexes, hochaient la tête. Ils mirent le vieux moine en état d'arrestation, l'accusant de cannibalisme. « Les lamas superstitieux mangent des cadavres », fut-il écrit dans les feuilles de propagande. « Maintenant, le vieux moine est un tombeau reliquaire ambulant », murmurèrent les Tibétains. Terminons avec ces histoires de rencontres entre les Chinois communistes et les Tibétains. Lorsque les Chinois détruisirent le monastère Dzogchen dans le Kham en 1959, les lamas qui l'administraient furent emprisonnés, torturés, ils furent accusés d'exploiter les masses, de vivre du travail des autres et d'autres crimes. Les démocrates communistes ne pouvaient pas vraiment apprécier ce qui se passait dans ces monastères. Les soldats des troupes d'occupation ne pouvaient pas non plus comprendre le parfum particulier de ces traditions totalement étrangères à leur éducation, à leur vision tout à fait matérialiste. Et il se passa des choses assez étonnantes comme celle-ci. Un moine illustre et instruit de l'Institut Sri Simha, le collège de philosophie renommé du monastère Dzogchen, n'était absolument pas intimidé par les menaces et les violences de ces geôliers chinois. Il n'y avait rien qu'il puisse faire pour lui faire abjurer sa tradition. En outre, il continuait à enseigner et conseiller ses compatriotes prisonniers, continuant ce qu'il avait fait pendant des années au monastère. Les Chinois essayèrent de le forcer à cesser, mais même leurs féroces sessions d'accusations, leurs interrogatoires publics, leurs violences et les tortures auxquelles ils le soumirent ne pouvaient rien contre la résolution du vieux moine. Exaspérés, les tourmenteurs finirent par s'écrier. Vous êtes toujours à dire que le plaisir et la douleur, le samsara et le nirvana sont totalement inséparables, identiques en nature, et que ce monde est irréel comme un rêve, nous allons maintenant savoir si c'est la réalité. Tout le monde craignait ce qu'il pouvait réserver aux compatissants vieux moines. Les inquisiteurs chinois battirent le moine sans merci, et avec beaucoup de compétence, prenant grand soin de ne pas mettre prématurément un terme à sa vie, ils lui rompirent les os. Blessèrent ses organes internes, lui brûlèrent les membres au fer rouge. Puis ils l'attachèrent sur le dos d'un cheval, de façon que chaque mouvement de l'homme ou de l'animal provoque une douleur atroce. Et ils firent courir le cheval autour de la cour de la prison. Et pendant ce temps, ils accablaient de sarcasme le lama brisé, sanglant, lui demandant de chanter sa chanson bouddhiste, tandis que tous les prisonniers regardaient horrifiés. Les témoins oculaires rapportent que le vieux moine, un vrai cavalier et guerrier Kampa, tibétain de l'Est, chanta spontanément des chants de réalisation pleins de sagesse, tandis que le sang dégoulinait de sa bouche aux dents cassées et que sa monture caracolait. Enfin, le cheval ralentit le pas. Et le joyeux chanteur se tut. Il lança un regard au ciel comme une flèche, cria « Hic !» Puis s'affaissa soudain, sans vie, sur sa selle. Ses liens l'empêchèrent de tomber. Les Chinois étaient coincés. Le moine était parti au-delà de leur domaine. Les bouddhistes tibétains utilisent différentes sortes de visualisations dans leur méditation. Les méditants experts manifestent ce qu'ils visualisent de façon aussi réaliste que la perception de la réalité ordinaire. Pour ce qui est des offrandes, il est souvent dit que l'on a ce que l'on donne. Plus on donne, plus on reçoit. Voici une histoire qui nous parle de visualisation. Un jour, alors qu'un grand lama donnait une initiation à un groupe nombreux, une vieille dame entra dans le temple. Au Tibet, on a coutume, à la fin d'un don de pouvoir, d'une grande cérémonie, d'offrir un signe de gratitude. L'offrande est souvent accompagnée d'une écharpe de soie blanche, symbole de pureté intérieure. La vieille femme avait un paquet de beurre de yak frais à offrir. Il était caché sous son vêtement. Elle avait l'intention de l'offrir au maître après avoir reçu sa bénédiction. D'ordinaire, le lama qui préside touche chaque disciple sur sa tête avec un vase sacré rempli de nectar. Mais comme il y avait trop de gens devant lui, il leur demanda simplement de visualiser le vase qu'il tenait, de l'imaginer lui-même, le plaçant au-dessus de chaque tête afin de transmettre l'initiation. La vieille dame, fidèle et confiante, fit exactement comme il lui avait été demandé et reçut l'initiation intégrale. Quand le long rite fut achevé et que fut venu le moment d'offrir le beurre précieux au maître vénérable, elle se contenta de se lever et de dire d'une voix de stentor « Maintenant, visualisez simplement, vénérable lama, que vous recevez en offrande ce paquet de bon beurre que vous voyez dans mes mains. » Elle tourna les talons et prit le chemin du retour, son paquet de beurre bien à l'abri sous sa cape.
Sous-titrage Société Radio-Canada.
Nasreddine, c'est un gourmand, Nasreddine. Il a goûté un pâté de foie qui lui plaît tellement qu'il demande à sa femme de lui en préparer. Elle lui dit, débrouille-toi, va acheter du foie, demande la recette au boucher et fais-toi ton pâté. Nasreddine, il va. Il a faim, il a envie de ce pâté. Il va voir le boucher, il achète un morceau de foie et le boucher lui confie une recette sur un petit bout de papier absolument extraordinaire. C'est le meilleur pâté de foie du monde. Et Nasreddine s'en va, muni de sa recette et de son morceau de foie, tout heureux. Chemin faisant, il rencontre un ami et il lui explique comment il va réussir à faire un... Et pendant qu'il explique cela, alors qu'il a posé ses affaires sur un petit muret de pierre, voilà qu'un corbeau arrive, attrape le foie, s'envole avec le foie. Nasreddine crie « Hé, mon foie, mon foie !» Puis il se ravise et dit « Bon, de toute façon, corbeau, tu as tout perdu parce que tu as peut-être le foie, mais c'est moi qui ai la recette. Tu ne pourras rien en faire. » Voilà, compte à rebours, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine, comme toutes les semaines, le mercredi à 12h35. C'était Marco, je vous dis ciao.